au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 19 mai, véritable journée d'été à l'émission. Aujourd'hui, on va parler évidemment de la visite de Mark Carney aujourd'hui du côté de Saint-Michel-des-Saints. Également avec nous, Karine Dancoz de la ville de Terrebonne. Elle est en fait porte-parole pour la journée BioBlitz qui aura lieu samedi. Avec Jacques Plante, il sera question du sondage Palace Data. Sondage qui nous raconte qu'aucun chef de parti au Québec ne se démarque vraiment. Avec nous également, Joey Deslauriers, maire de Saint-Donat et trésorier de l'UMQ. Il sera question de travaux d'infrastructure au niveau municipal. Simon Duval sera avec nous, président de l'UPA Lanaudière. On va parler de relève agricole. Mais tout d'abord, en ce 19 mai, c'est la Journée internationale des médecins de famille. Et Lanaudière, tout comme le Québec en entier, le manque cruellement de médecins de famille. Et il est vrai que les tiraillements avec le gouvernement du Québec sur les conditions de pratique et sur leur traitement, n'ont rien pour aider à rendre la profession attrayante. Et François Morin en a discuté avec la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de Lanaudière, la docteure Lynn Couture.
Docteur Couture, c'est la journée mondiale des médecins de famille et Dieu sait que dans l'actualité, c'est important, les médecins de famille, par les temps qui courent. Alors j'imagine que l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides de Lanaudière, comme la FMOQ, là, on va en parler beaucoup. On va faire la promotion sur de la profession.
Absolument, parce que je pense que nos médecins de famille qui sont présents partout, hein, je veux dire, la médecine familiale au Québec, c'est vraiment différent, c'est une bébite particulière par rapport au restant du monde, hein, parce que nos médecins de famille sont présents partout. Ils sont pas juste au bureau à faire du suivi 0-100 ans, ils sont, si vous allez à l'urgence dans le nord de la Lanaudière, à Joliette, ben c'est probablement un médecin de famille. Il vous hospitalise. C'est probablement encore une fois un médecin de famille que vous allez avoir. Un accouchement, c'est un médecin de famille pour beaucoup. Un soin de longue durée, un soutien à domicile, l'aide médicale à mourir, une vasectomie, des interruptions volontaires de grossesse ou même l'infiltration que vous avez besoin. Tout ça au Québec, c'est fait par des médecins de famille très, très souvent. Alors, ils sont partout. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de souligner leur apport dans le réseau de la santé.
Et ça vient mettre en lumière tout ce que vous venez de dire, que la pratique est diversifiée, donc pour des gens qui seraient peut-être intéressés par la pratique de médecine familiale, là, c'est le temps de regarder ça, là.
Absolument, parce que, on le dit, c'est une pratique qui peut être tellement enrichissante sur le plan personnel pour l'humain qui la pratique, mais qui permet de donner des services incroyables à la population. Donc, on peut y trouver son compte, là. Enfin, quand on parle de pratique polyvalente, on peut vraiment, il y a des niches un peu partout, mais il y a de la prise en charge, il y a vraiment plein de choses. Puis, avec l'année qu'on vient de passer, évidemment que pour nous, c'est important de souligner l'importance de la médecine familiale, puis d'essayer de mettre un baume un peu sur nos médecins de famille qui ont été capables de s'adapter puis de passer à travers tout ça. Donc, pour nous, ça, c'est important de le souligner puis de les féliciter et de reconnaître là, ce qu'ils font.
Au-delà, justement, de la partie de bras de fer qui a été quand même difficile, et ça a donné malheureusement des mauvais résultats là, sur la place publique, ça a eu mauvaise presse. Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne s'intéressent toujours pas là, suffisamment à la médecine familiale?
Ben, écoutez, il y a plusieurs facteurs. Quand on regarde là depuis 15 ans, là, c'est plus de 900 postes qui ont été laissés vacants en médecine familiale. Donc, on comprend là, qu'on ne serait pas du tout à la même place. Là, plutôt qu'avoir un déficit de plus de 2000 médecins de famille, on serait pas mal mieux positionné. Il y aurait quand même un déficit, mais moins lourd à porter, c'est sûr. Les étudiants vont faire une étude ou ont commencé une étude là, là-dessus, mais d'entrée de jeu, ce que les jeunes nous disent, c'est que les activités médicales particulières, les multiples contraintes que les jeunes ont, c'est lourd à porter. Vous savez, quand vous rentrez en médecine puis que vous recevez votre diplôme, vous pouvez pas vous établir n'importe où puis vous pouvez pas faire n'importe quoi. Donc, vous devez sélectionner, oui, un endroit, mais l'endroit va vous dire, voici, vous avez des activités de telle ou telle ou telle nature, vous avez un choix quand même, là. mais vous avez 15 ans d'engagement à faire. Et ça, donc, c'est lourd, c'est unique au Canada. Alors, et c'est uniquement la médecine familiale au Québec qui a ça. Donc, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est moins attractif. Donc, il y a plusieurs contraintes au Québec qui sont pas représentées ailleurs. Il y a eu effectivement énormément de permettez-moi l'expression anglophone, doctor bashing dans les dernières années. Là, ça n'a pas été jojo là au niveau du discours public là. Alors ça, c'était, ça a pas été intéressant. Puis avec la loi 2 là, avec l'automne qu'on a passé, c'est sûr que ça a eu un impact majeur. Donc là, il faut travailler en collaboration, il faut travailler à construire ça. Puis on espère que non seulement ce gouvernement-ci, mais les autres, parce qu'on s'en va vers des élections en octobre, que les autres partis politiques qui prendront qui feront des promesses, ben les feront pas sur le dos des médecins de famille à vouloir les mater, mais s'ils font des promesses en santé, mettront l'énergie pour rendre la médecine familiale attractive puis augmenter les cohortes. Ça, c'est majeur et c'est ce qu'on espère voir là. Et on va les talonner pour ça.
Donc justement, la FMOQ, tout récemment, le président, qui est à nos doigts, soit dit en passant, le docteur Amiot, a mentionné, en fait, a adressé une demande justement là, pour accroître les cohortes.
Absolument. Puis ça, il faut quand même reconnaître que le gouvernement de la CAQ avait augmenté les cohortes. C'est bien. C'était le pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est quand même la chose positive qu'ils ont faite en santé là, au cours des dernières années. Actuellement, le climat est meilleur, effectivement, aussi. Donc, faut continuer dans ce sens-là. Il faut accroître les cohortes. Il faut rendre la pratique intéressante. Il faut s'assurer qu'on réduit les contraintes sur la médecine familiale pour la rendre attractive, la rendre intéressante par rapport à d'autres pratiques là, au Québec. Alors ça, c'est majeur parce que, comme je disais tantôt, ça nous prend une première ligne forte au Québec. Sans première ligne forte, le reste, c'est le fondement. Là. Alors le reste va chanceler.
Je vais me faire l'avocat du diable en terminant pour revenir sur ce point-là des mesures plus coercitives là, pour retenir les étudiants ici. Il fallait quand même prendre des moyens. Peut-être que le moyen est extrême?
Bien, en fait, les mesures ça, c'est intéressant que vous le mentionniez parce que ça, vous me parlez du projet de loi 83, là, si je comprends bien.
En plein ça.
Rappelons-nous que c'est moins de 6%, avant cette loi-là, c'était moins de 6% des médecins qui soit quittaient ou s'en allaient au privé, là. Donc, c'était pas des légions. Vous savez, normalement, hein, on dit on fait une règle pour 80% des situations. Alors là, on était au-delà de 90% qui restaient et qui le faisaient correctement. Alors, est-ce que ça méritait vraiment ça ou est-ce que c'était vraiment plus avisé, symbolique? D'ailleurs, autre fait intéressant, pour le privé, toutes les demandes de médecins de famille pour le privé ont été refusées, alors que la plupart, ou en tout cas beaucoup de demandes de médecins spécialistes ont été acceptées. Encore une fois, on a parfois l'impression de deux poids, deux mesures ici. Et ça, c'est toujours troublant pour les médecins de famille. Ceci étant dit, je ne fais pas la promotion du public, du privé, excusez-moi. Je crois définitivement au système public. Mais vous savez, hein, si vous voulez, plus vous rendez la chose difficile, plus souvent ça va devenir attractif. Hein? C'est le fameux, rappelez-vous les Irlandais, hein? Ils voulaient pas manger de pommes de terre au début, alors ils ont mis un champ, ils ont enfermé le champ, puis ils l'ont fait garder et tout, puis là c'était juste pour les riches, puis là tout le monde s'est mis à manger des patates. Alors, donc, il faut aussi le faire correctement. Ceci étant dit, on espère effectivement là qu'on va y aller plus tôt avec de la collaboration puis des incitatifs pour que le public soit la chose la plus intéressante. Et puis moi, vous voyez, d'emblée, je pense au public, je pense même pas au privé quand je parle de valoriser la médecine familiale, là, c'est clair. Pour nous, c'est le système public qui est important.
François Morin qui s'entretenait avec la docteure Lynn Couture, la présidente de l'Association des médecins omnipraticiens Laurentides-Lanaudière, en vous rappelant qu'en ce 19 mai, ben, c'est la journée internationale des médecins de famille. Dans un moment, une bonne nouvelle pour la relève dans le milieu agricole.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez-nous au défi, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Profitez d'un service imbattable et de rabais exceptionnels sur nos modèles 2026. N'attendez plus. Passez en concession dès maintenant au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette et repartez au volant de votre nouveau véhicule. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Cette semaine chez Métro, le beurre sélection 454 grammes est offert à 4,75 seulement. Profitez-en! En plus, le homard vivant au prix membre mois est offert à 8,66 la livre ou 19,9 le kilo seulement. Et ça, c'est pas des histoires de pêche. Pour des économies en série et pour profiter de 7200 produits en promotion, rendez-vous chez Métro. Quantité limitée selon la pêche, des conditions s'appliquent, détails en magasin ou sur métro.ca.
Ici Valérie Dionne de l'équipe immobilière Les Filles du Nord.
Et Simon Mercier, courtier immobilier résidentiel et commercial.
On vous présente le 199 et le 203 Chemin du Domaine à Saint-Gabriel. Deux propriétés voisines pouvant servir de résidence principale.
Deux chalets.
À côté du lac Masquinongé.
Un emplacement, wow! Des maisons de conception isobloc se distinguant par leur solidité et leur efficacité énergétique.
Le tout à moins de 350 000 $. Trois chambres, deux salons, une salle de bain et de la tranquillité d'esprit.
Visitez-les dès maintenant sur Centris ou contactez Les Filles du Nord et Simon Mercier pour plus d'informations.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio, domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus, Joliette.com.
CFNG. Lanaudière PM. Bonne nouvelle.
16h18, laissée pour compte depuis des années, la relève agricole du Québec peut maintenant compter sur des appuis tangibles de la part du gouvernement du Québec. La première ministre Christine Fréchette a procédé à des annonces en ce sens. Et puis Marie-Pierre Poulin en parle avec le président de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de Lanaudière, Simon Duval.
Monsieur Duval, la première ministre Christine Fréchette a annoncé un remboursement de 87 millions de $ pour indemniser les agriculteurs face à la taxe carbone. Vous l'avez reçue comment, cette nouvelle-là?
C'est une excellente nouvelle. C'est une demande là, de longue date des producteurs et productrices. De savoir là, que les deux dernières années, 24 et 25, vont être remboursées, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, il restera juste à trouver une façon là, de pérenniser ce remboursement dans le futur. Là.
Et justement, vous pensez que ça pourrait être fait comment de pérenniser ce remboursement-là?
C'est sûr que le plus facile serait de l'abolir complètement. Dès qu'on parle de mécanisme de remboursement, on se complique la vie, puis parfois là, ça peut venir avec une certaine lourdeur. Mais je pense qu'il faut quand même souligner aujourd'hui là, l'engagement que Mme Fréchette avait pris là, lors de sa campagne au leadership, engagement qu'elle tient aujourd'hui de rembourser les sommes. Maintenant, on est prêt à avoir des discussions avec elle là, pour l'avenir, puis s'assurer là, que les producteurs puis les productrices là, restent compétitifs là, au niveau des marchés.
Et j'imagine que surtout avec le prix du gaz qui augmente, descend un peu, mais reste quand même haut, cette indemnisation-là, ça aide grandement quand même?
Bien, c'est sûr que ça va aider. Là. Comme tu l'as mentionné, 87 millions qui vont retourner dans les poches des producteurs, c'est quand même pas rien. Il y a le diesel là, qui est utilisé pour les tracteurs qu'on n'a pas le choix d'utiliser. Il y a aussi tout au niveau du chauffage là, des bâtiments agricoles, le gaz naturel. Donc ça aussi, là, il y avait une taxe carbone là-dessus. Donc oui, c'est sûr que c'est une excellente nouvelle. On est très contents.
Madame Frichette a aussi annoncé un soutien pour la relève, puis ça vient aussi avec une hausse des montants de 30% qui sont déjà financés. Ça aussi, j'imagine que c'est bien perçu.
Ben ça, c'est très bien perçu. C'était aussi une demande de longue date, aussi un engagement que Madame Frichette avait pris lors de sa campagne au leadership. Donc, on parle quand même là, d'un programme d'aide à la relève dont les montants n'avaient pas été mis à jour là, depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un gain majeur. Maintenant, il faut juste s'assurer là, que ce sera pas un autre 10 ans avant que les montants soient indexés, là, disons. L'autre chose qui est vraiment un gain majeur, c'est tout au niveau de la distinction temps plein, temps partiel. Donc, ce programme d'aide-là à la relève avait deux volets. Donc, si les personnes avaient un emploi à l'extérieur de la ferme, donc malheureusement, beaucoup de relèves aujourd'hui, là, à cause du coût des terres, du coût de la machinerie, tout ça, n'ont pas le choix d'avoir un emploi à l'extérieur de la ferme pour faire leur transition vers l'agriculture. Donc, ces productrices-là, ces producteurs-là se retrouvaient à être pénalisés. Le montant était coupé de moitié, là. Donc, si par exemple, on était accessible à une aide financière de 50 000 $ qui était le montant maximal là, à temps plein. Mais si on était à temps partiel avec un emploi à l'extérieur, on tombait à 25 000 seulement. Donc, l'abolition du temps plein, temps partiel, ça, personnellement, je trouve que c'est encore un plus grand gain pour le milieu agricole, parce que là, on vient souligner le fait que c'est pas parce qu'un producteur doit avoir un emploi à l'extérieur de la ferme qu'il peut pas être impliqué à temps plein dans son entreprise.
Et est-ce que vous estimez que ça va aussi apporter plus de relève, ce financement-là?
Bien, assurément. Assurément que tout le côté monétaire, se lancer en agriculture, c'est pas comme se lancer dans les autres domaines, là. On se rappelle que ça prend 8 $ d'investissement pour faire 1 $ de revenu dans le milieu agricole, là. On est bien loin du milieu commercial ou du milieu industriel. Donc, par tout ce capital-là qui doit être amené avant de pouvoir se lancer, bien, c'est sûr que ça va aider. Puis ça va aider plus de jeunes à démarrer des entreprises. Ça va aider aussi plus de jeunes à reprendre des entreprises existantes, que ce soit l'entreprise de leurs parents ou même une entreprise non apparentée. Là, dans la Nodière, puis au niveau du Québec, dans les 10 à 15 prochaines années, on va avoir une part importante des entreprises qui vont changer de génération. Puis il y en a encore un grand nombre de ces entreprises-là qui n'ont pas de plan de relève. Il n'y a pas une relève qui est identifiée pour prendre les rênes de ces entreprises-là. Donc c'est sûr que si on facilite l'établissement de la relève, bien assurément, on va s'aider dans tout le milieu agricole.
Est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres solutions qui pourraient être mises en place aussi pour aider à trouver cette relève-là?
Bien, assurément, il y a un paquet de petits trucs. Nous, on a la Fédération de la relève agricole de la Nodière, là, qui a une plateforme de revendication là, qui est disponible sur Internet. Je voudrais pas me faire le porte-parole à leur place, mais il y a plein de petites choses qu'on peut faire, je pense, qu'on pourrait mettre de l'avant pour aider la relève à s'établir, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau réglementaire, mais vraiment, disons, la première chose qu'il fallait faire, c'était ce programme d'appui à la relève. Puis je suis content aujourd'hui là, que ça soit finalement fait.
Donc, on peut quand même dire que Mme Frichette, à date, elle tient ses engagements là, qu'elle a partagés pendant sa campagne.
Absolument. Elle tient ses engagements. Et puis, durant sa campagne, elle avait aussi pris des engagements au niveau d'une plus grande part d'aliments québécois dans nos institutions. Chose qu'elle a commencé aujourd'hui là, avec la nomination d'Audrey Bogmans comme adjointe parlementaire qui va être responsable de ce dossier-là, responsable de faire atterrir plus de nos produits québécois dans les hôpitaux, dans les CHSLD, les CIUSSS de ce monde. Donc ça, c'est un engagement qu'elle a pris aussi, puis elle va de l'avant avec ça. Elle avait aussi pris des engagements pour réduire le fardeau administratif et réglementaire. Puis ça, ben on s'attend, comme les autres aspects, à ce qu'elle poursuive dans ces dossiers-là aussi.
Marie-Pierre Poulin qui s'entretenait avec le nouveau président de l'UPA Lanaudière, Simon Duval. Ben, c'est une bonne nouvelle quand même, puisque la relève agricole du Québec peut maintenant compter là, sur des appuis quand même tangibles là, de la part du gouvernement du Québec.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Bon, maintenant, la métropolitaine pour Charles de Gaulle, c'est un petit peu lourd depuis Marien et ça jusqu'à peut-être 500 mètres passés Henri Bourassa, mais quand même, on roule à une bonne vitesse. La traversée de la rivière des Prairies est facile. Repentigny, 40, direction est, ça va bien. La 341 montée de l'Épiphanie, très lourd depuis la 40, et ce, jusqu'à la rivière L'Assomption. Le pont Le Gardeur approche facile par Sherbrooke, Notre-Dame, traversée, qui va quand même assez bien vers la rive nord. 25 nord, c'est là où c'est plus problématique. Aujourd'hui, il y a eu accident, plutôt véhicule en panne, je crois que c'est à la hauteur de Peyrat. Et on sent encore les effets depuis Henri Bourassa. C'est dense et ce jusqu'à, oh là là, presque au boulevard des Mille-Îles à Laval, donc sur tout Laval, là, même à la jonction avec la 440, là, assez lourd actuellement. 25 Nord, secteur Île-Saint-Jean, Terrebonne, Mascouche, là, ce sont de bonnes nouvelles, ça va bien. Pont Sophie-Masson facile en ce moment et finalement, autoroute 640 entre la 25 et la 40, direction est, c'est dense, ce secteur de la montée des Pionniers. En direction ouest, c'est assez lourd depuis la montée des Pionniers et ce, jusqu'à la 125, puisqu'il y a une voie sur deux de fermée dans le secteur. En rapport avec un véhicule lourd en panne, c'est survenu il y a environ une demi-heure. Les nouvelles dans un instant avec Pierre Jubinville.
Bonjour, c'est Kim de Joliette Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Joliette Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Sainte-Marie-Salomé, l'expert dépanneur Beaussoir. À Saint-Jacques-de-Montcalm, dépanneur Miguet, l'expert dépanneur Beaussoir. À Saint-Esprit, Intermarché Saint-Esprit. À l'Épiphanie, dépanneur Le Petit Aurel. À Saint-Sulpice, l'expert dépanneur Beaussoir. À Repentigny, Tabagie Gilles. À Charlemagne, dépanneur 7 jours. À Terrebonne, dépanneur Gascon. Dépanneur Terrebonne. À Mascouche, dépanneur La Chaudronnée. Et à l'Assomption, Tabagie Bertrand, secteur Saint-Gérard-Magella, dépanneur Relie. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
L'échappée sur le pouce, c'est ta solution de prêt-à-manger. Savoureux et abordable, on t'offre le meilleur des deux mondes. Un repas à ton goût et une économie de temps. Repas fraîcheur, prêt à chauffer ou à congeler, l'Échappée sur le pouce cuisine pour toi avec des ingrédients locaux et frais. Tous les détails à l'échappeesurlepouce.com.
Votre entreprise est-elle prête pour une cyberattaque? Cela peut coûter très cher. Avec Fleet Info, protégez vos données, vos systèmes et votre entreprise grâce à des solutions de cybersécurité fiables et surveillées. Ne prenez pas de risques. Sécurisez avec Fleet Info, expert TI.
Le dimanche 24 mai à 21h, la ville de Notre-Dame-des-Prairies vous donne rendez-vous dans le stationnement du Carrefour culturel pour Acupunk, un défilé de marionnettes géantes où musique, lumière et poésie se rencontrent pour émerveiller tous les publics. C'est à ne pas manquer. Détails au notredamedesprairies.com. Une présentation de la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de Lanaudière en collaboration avec la ferme Régis, fruits et légumes.
L'actualité de ce mardi 19 mai en manchette. Québec double sa participation dans Nouveau Monde Graphite. Siby Flamand est heureux pour les jeunes Atikameks et l'essence fait grimper l'inflation. Tout d'abord, Pierre Jubainville visite aujourd'hui de Mark Carney à Saint-Michel-des-Saints. 85 nouveaux millions de dollars dans le projet de Nouveau Monde Graphite.
Oui, de la grande visite, il a donné, M. Carney, le coup d'envoi des travaux de construction de la mine de Nouveau Monde Graphite. Elle avait été placée sur la liste des grands projets il y a 6 mois par le gouvernement fédéral. La mine Matawinie produira un composant indispensable à plusieurs industries, dont les fameux batteries de véhicules électriques. Elle fournira notamment une usine de matériaux pour batteries à Bécancour. M. Carney a souligné cette chaîne de valeur entièrement intégrée.
Cela permet au Canada d'aller de la mine au marché de minerais bruts à minéraux raffinés prêts pour les batteries. Et elle fonctionnera grâce à l'hydroélectricité propre du Québec.
Le gouvernement canadien achètera durant 7 ans 30 000 tonnes par année de production de cette mine et il y aura 1 000 nouveaux emplois qui seront créés. Ce qui a fait dire au chef Atikamekw de Manawan, Siby Flamand, que c'est une bonne nouvelle pour les jeunes.
Je pense aussi que c'est important de mentionner que Manawan a plus de 50 % de jeunes qui vivent dans notre communauté. Puis ce projet minier Matawinie va permettre de créer des emplois importants pour nos jeunes de la communauté.
Éric Desaunier, qui est PDG de la mine de graphite de Matawinie à Saint-Michel-des-Saints, lui dit que c'est un grand pas en avant, ce qui s'est passé aujourd'hui.
Dans un moment qui est plus difficile comme tel en ce moment, c'est les meilleurs moments. Les vrais projets solides se financent après 15 ans de travaux. Donc, c'est des projets majeurs qui demandent énormément de temps, de détails. Puis c'est ce qu'on a pu faire avant de lancer le projet aujourd'hui.
Et la préfète Pierre de la Matawinie se réjouit, mais demeure inquiète sur un point.
Elle est ravie, mais elle s'inquiète pour les infrastructures pour se rendre là-bas. Ça va être un grand test pour elle.
Voici Isabelle Perrault.
C'est inquiétant aussi, puisqu'on n'est pas une région reconnue pour ça. Je vous dirais que les infrastructures, entre autres les infrastructures routières, ne sont pas adaptées à ça. Donc, je pense que c'est un test là, important avec la mine Matawinie de s'assurer là, que les choses se font comme il faut, qu'avec l'acceptabilité sociale et que les infrastructures, les investissements en infrastructures suivent.
Bon, maintenant, Sainte fédérale, l'inflation grimpe au Canada.
2,8% en avril, comparativement à 2,4% en mars. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a réagi en disant que le Canada est mieux placé que d'autres pays du G7. Il participe actuellement à une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Paris.
Je pense que le Canada est mieux placé que bon nombre de nos collègues dans les pays du G7. Que le conflit au Moyen-Orient a un impact sur à peu près toutes les économies. Le Canada était l'un des pays à prendre des mesures très, très concrètes pour supporter les familles avec le coût de l'alimentation et évidemment le coût de l'essence. Les mesures qu'on a prises ont déjà offert un répit aux familles canadiennes.
Les prix de l'essence, Claude, continuent de monter. Le prix moyen tourne autour d'$1,94 le litre d'essence dans la Naudière. Le prix moyen le plus élevé est à $2. Un sou, finalement, c'est dans les moulins, dans le sud de la Naudière. Et le prix moyen le plus bas est dans la MRC de Montcalm, $1,90.
Des choix douloureux, Pierre, devront être faits au niveau municipal.
En raison des coûts qui explosent au chapitre de la réfection des infrastructures, c'est ce que croit le maire de Saint-Donat et trésorier à l'Union des municipalités du Québec, Joël Deslauriers, une hausse de la taxation est envisagé, mais dans un but bien précis, nous dit M. Deslauriers.
Il y a un seul payeur au bout, c'est le contribuable, c'est le citoyen québécois. Donc, oui, il faut faire attention, mais ce qu'on demande, c'est qu'aussi Québec fasse sa part. Donc, si les municipalités font aussi leur part, oui, on peut parler peut-être de 1 ou 2 % d'augmentation de plus que la normale, mais c'est vraiment pour des fonds réservés au déficit de maintien des actifs. Il faut s'en occuper de nos actifs. C'est beau couper des rubans, mais on doit aussi maintenir et entretenir ce qu'on a.
Une journée de grève pour les ingénieurs du gouvernement québécois.
Une seule journée à compter de minuit, mais cela ne devrait être que le début d'une grève qui s'intensifiera jusqu'en juin, prévient le président de l'Association professionnelle des ingénieurs, Marc-André Martin.
Il reste à déterminer si on part tout le mois de juin, si on fait une semaine, tout ça reste à déterminer, mais je vous dis que notre crescendo va se faire très rapidement en juin. Notre fenêtre d'opportunité, nous, c'est le mois de juin.
Et finalement, une bonne nouvelle dans le monde agricole.
Oui, Simon Duval, qui est président de l'UPA Lanaudière, accueille avec satisfaction la bonification à la hauteur de 30 % du programme d'appui financier à la relève agricole. La subvention maximale passera de 50 000 à 65 000. L'aide n'avait pas été indexée depuis 10 ans. Puis, Québec abolit la distinction entre les producteurs à temps plein et ceux à temps partiel. On écoute M. Duval.
Si les personnes avaient un emploi à l'extérieur de la ferme, donc malheureusement, beaucoup de relèves aujourd'hui, là, à cause du coût des terres, du coût de la machinerie, tout ça, n'ont pas le choix d'avoir un emploi à l'extérieur de la ferme. Donc, ces productrices-là, ces producteurs-là se retrouvaient à être pénalisés. Le montant était coupé de moitié, là. Donc, l'abolition du temps plein, temps partiel, ça, personnellement, je trouve que c'est encore un plus grand gain. C'est pas parce qu'un producteur doit avoir un emploi à l'extérieur de la ferme, qui ne peut pas être impliqué à temps plein dans son entreprise.
Bien, merci à Pierre Jubainville. Bonne soirée. Laisse aller enfiler ton maillot de bain là, pour aller te faire bronzer. Profiter du beau temps pendant que ça passe. Salut.
Lanaudière PM. Lanaudière PM. Claude Fournel. CFNG. Lanaudière PM. Affaires municipales.
On en parlait aux informations avec Pierre il y a quelques instants. Ce sont pas des défis qui manquent là, pour les municipalités au Québec qui sont confrontées à la hausse des coûts liés aux travaux d'infrastructure. Il y a deux rapports qui viennent leur dire que les municipalités auraient dû ajuster progressivement à la hausse les taux de taxation. François Morin en discute avec le maire de Saint-Donat, Joey Deslauriers, qui est reporté d'ailleurs dans ses fonctions de trésorier à l'Union des municipalités du Québec.
Alors, Joël Deslauriers, dans un premier temps, réélu au poste de trésorier de l'Union des municipalités du Québec. C'est quand même un poste particulier, trésorier de cette union-là.
Ben oui, M. Morin, écoutez, très fier, puis je remercie mes pères, hein, les mairesses et maires d'un peu partout au Québec, là, du conseil d'administration et du comité exécutif aussi, là, qui m'ont accordé cette confiance-là. Pour un deuxième mandat à titre de trésorier de l'UMQ, oui.
Pour monsieur et madame qui nous écoutent, qu'est-ce que ça fait un trésorier à l'UMQ?
Un trésorier est en charge vraiment au niveau des états financiers, des regroupements d'achats d'assurance, regroupements d'assurance collective. Alors, on supervise toute l'administration financière de l'Union des municipalités du Québec.
Dans le contexte où, justement, toutes les municipalités, villes ou municipalités ou villages sont à la recherche de moyens d'économiser, c'est quand même un poste important.
Ben oui, puis d'autant plus, vous savez, depuis un an, on a travaillé vraiment sur un grand chantier là, qui s'appelle la fiscalité municipale. Donc, très au fait de ce qui se passe dans le milieu municipal.
Bon, on en ouvre une porte, là, concernant la fiscalité municipale. Un premier rapport produit par l'Université de Sherbrooke qui dit que les municipalités n'ont pas assez taxé. Deuxième rapport de deux anciens ministres des Finances qui viennent dire exactement la même affaire. Il y a lieu de réfléchir.
Ah, tout à fait. Puis ça fait un an que ces professionnels-là travaillent. Vous l'avez mentionné, Luc Godbout, une sommité avec Tommy Dubé qui est aussi avec lui et deux anciens ministres des Finances, comme vous l'avez dit, donc c'est transpartisan aussi, là, autant le Parti libéral que le Parti québécois. Puis oui, mais ce n'est pas seulement que d'augmenter ou passer de taxer. Vous comprendrez, M. Morin, le dossier des infrastructures, on l'a vu, les chiffres sont éloquents. Les municipalités, le mur arrive très vite, puis je crois qu'on est rendu dans le mur pour utiliser les termes de Mme Jérôme Forget. Donc, on se doit de réfléchir puis de voir qu'est-ce qui est possible de faire dans les prochains mois, prochaines années. Et plusieurs pistes de solutions, dont 21 recommandations dans le rapport. Là, mais oui, le dossier des infrastructures est très préoccupant.
On le dit souvent, la capacité de payer des contribuables atteint ses limites. Est-ce que éventuellement des municipalités, même comme Saint-Donat, seraient appelées à faire des choix douloureux?
On n'aura pas le choix. M. Morin, moi, je vous le dis, là, on n'aura pas le choix. Puis, vous savez, une des recommandations Et vraiment, il faut le faire en collaboration avec le gouvernement. Tu sais, vous savez, c'est pas juste au palier municipal, parce qu'on le sait tous, là. Et il y a un seul payeur au bout, c'est le contribuable, c'est le citoyen québécois. Donc, oui, faut faire attention, mais ce qu'on demande, c'est qu'aussi Québec fasse sa part. Donc, si les municipalités font aussi leur part, oui, on peut parler peut-être de 1 ou 2 % d'augmentation de plus que la normale, mais c'est vraiment pour des fonds réservés au déficit de maintien des actifs. Il faut s'en occuper de nos actifs. C'est beau couper des rubans, mais on doit aussi maintenir et entretenir ce qu'on a. Ça fait partie du patrimoine québécois, M. Morin, l'ensemble des infrastructures au Québec.
Il y a certaines municipalités, même dans la Naudière, au sud un peu plus, qui justement ont déjà créé de tels fonds. Alors, on pourrait faire la même chose sans que ça fasse trop mal au portefeuille du payeur de taxes.
Oui, tout à fait. Là, quand on rentre dans les modalités au niveau plus technique, par la suite, on va laisser quand même libre cours à chacune des municipalités. C'est important de conserver l'autonomie municipale. Si vous comprendrez dans tout ce portrait-là, là, 60, les municipalités sont responsables de 60% des infrastructures au Québec, M. Morin. 60%. Alors, puis on a vu, là, puis il y a eu un boule dans le rapport de M. Godbout, on le voit au niveau du PQI, là, le Plan québécois des infrastructures, la part aux municipalités a diminué de près de 50%. On était à 7,7%, on est rendu à 4 quelques % des sommes que le gouvernement met dans le TPI pour le bénéfice des municipalités. Alors ça, il faut s'en occuper. On est responsable de 60% des infrastructures. C'est pas anodin, là. C'est pas rien d'avoir cette responsabilité-là, mais faut-il avoir les moyens aussi. Donc oui, il faut faire attention à la capacité de payer des gens, mais je pense que si on réunit les deux paliers, si on dit au gouvernement, si vous en mettez, on en met. Donc oui, on a une part de responsabilité, nous aussi. Puis il y a d'autres recommandations aussi. Là, tu sais, on parle des programmes, là. Nous, de la reddition de comptes, de la lourdeur administrative. Déjà, Mme la Première ministre s'est engagée à réduire, si on ajoute un formulaire, on en enlève deux. Et nous, on s'en va aussi. Ce qu'on demande, c'est au niveau des normes. Parce qu'un formulaire, c'est une chose. Mais les normes, c'est ce qui fait que c'est 40% plus cher. Donc, est-ce qu'on est capable que si on ajoute une norme, ben, on enlève deux normes. Alors, ça aussi, ça va contribuer à la diminution des coûts au niveau des infrastructures.
Et faut-il le rappeler en terminant, il y a quand même des sommes importantes qui dorment du côté de Ottawa, faute d'une entente avec le gouvernement du Québec. Alors, ça réglera pas tout, mais bien géré, on peut aller loin.
Ah, oui, bien, vous l'avez dit, là, ces sommes-là, là, il y a plusieurs municipalités. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a d'autres provinces à l'intérieur du Canada qui bénéficient déjà de ces sommes-là. Alors, nous, ce qu'on dit, oui, là, Madame la Première ministre a dit, on va accélérer, on va essayer de faire ça rapide, mais ces sous-là qui dorment, ben ils sont pas dans les municipalités, ils sont pas là pour accélérer la construction de logements. On l'a vu, là, il y a des municipalités qui mettent des moratoires parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir ou de faire la réfection de leur soit usine d'eau potable ou l'usine de traitement des eaux usées. Donc oui, comme on dit, tout est dans tout, M. Morin.
Voilà, c'est François Morin qui s'entretenait avec le maire de Saint-Donat et trésorier de l'Union des municipalités du Québec, Joey Deslauriers. Dans un moment, avec Jacques Plante, Christine Fréchette et Paul Saint-Pierre Plamondon, là, qui bataille fort pour le titre du meilleur premier ministre du Québec, là, aux yeux des citoyens.
Jouer au Super Radio Bingo de CFNJ, c'est payant.
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 17 mai. Remporte 66 et 67 au jeu de la ligne des N. Laurent Tremblay de la Valtrie, une carte achetée au Bonisoir. Michel Caillé de Berthierville, carte procurée au dépanneur F1. Gina Jolie de Saint-Émilie de l'Énergie, qui a acheté sa carte chanceuse au dépanneur du Centre. Nancy Paradis de Canton de Hatley, une carte procurée au dépanneur Rondeau de Saint-Zénon. Gilles Gravel de Saint-Gabriel, carte achetée au métro Emery de Saint-Damien et Nancy Rousseau de Sorel-Tracy grâce à sa carte achetée chez Liquidation Guertin. Remporte 4 000 $ au jeu de la carte pleine. Denise Cormier de Sorel-Tracy, carte de Liquidation Guertin et gagne 600 $ à la deuxième chance. Claude Boivin de Sorel-Tracy, carte procurée au dépanneur Guylaine. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. 5 000 $ en prix avec les trois jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo.
18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
S'il y a un moment où on coupe les prix, c'est pendant la semaine. Non. On passe les prix au Bonnes. C'est le temps de faire du bruit. Des prix passés à la hache.
Pour vos projets pendant la semaine, Rona.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustré, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Cette semaine chez Métro, le beurre sélection 454 grammes est offert à 4,75 seulement. Profitez-en! En plus, le homard vivant au prix membre mois est offert à 8,66 la livre ou 19,9 le kilo seulement. Et ça, c'est pas des histoires de pêche. Pour des économies en série et pour profiter de 7200 produits en promotion, rendez-vous chez Métro. Quantité limitée selon la pêche, des conditions s'appliquent, détails en magasin ou sur métro.ca.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Pendant l'événement Mettez nos défis, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Prenez le volant d'un Kicks 2026 avec un taux de financement aussi bas que 0% sur 36 mois. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À CFNJ, voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Bon après-midi mon Claude.
Deux sondages qui disent à peu près la même chose. Le Palace Data de la semaine dernière qui évoque que bon, à peu près tous les chefs, en fait il n'y a pas vraiment un chef qui se démarque des autres. Et là on apprend aussi que bon, Milliard recule, le
perd
chef libéral qui perd des plumes dans la faveur populaire. Et ce qu'on apprend dans un sondage Léger qui vient tout juste de sortir, Léger Québécois, Christine Fréchette puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui bataille fort là, pour le titre de meilleur premier ministre du Québec au jeu des citoyens. Et là, Christine Fréchette qui souffle dans le cou de Paul Saint-Pierre Plamondon, mais Saint-Pierre Plamondon est toujours premier. Le problème, c'est que Christine Fréchette est plus populaire que son parti.
Oui, oui, c'est ça qui est l'affaire là-dedans. Et tu fais bien de le mentionner, deux sondages différents. Je ne sais pas si c'est parce que Palace Data veut se démarquer de Léger, mais moi, j'ai de la misère avec le question de perception. Là, ils disent impression favorable ou défavorable. Il me semble qu'un sondage, là, il y a moyen de faire ça plus clair et plus net. Mais effectivement, Paul Saint-Pierre Plamondon est toujours en tête. Là, on remarque avec celui qui vient de sortir, là, dont tu faisais état, le Léger Québécois, qu'elle se rapproche de lui. Mais encore là, il s'agit de la personne.
Oui, oui, oui,
hein, c'est ça. C'est vraiment de elle, parce que la question qu'on pose, c'est qui ferait le meilleur PM. Alors là, on parle des chefs de parti, et avec ce qu'elle fait, le rythme endiablé là, qu'elle conserve depuis son élection à la chefferie.
On rappelle qu'elle arrive de France ce week-end.
Absolument, et vous allez la voir à peu près sur tous les médias, là, en fin de journée aujourd'hui et demain aussi, là, pour raconter un peu sa rencontre avec Macron et compagnie. Donc, elle est beaucoup présente dans les médias. Ça, qu'on le veuille ou non, là, les maudits médias, les tannants de médias, mais c'est de l'influence quand même pour la population.
Certainement.
De là à dire que dans les jours qui viendront, moi, j'ai au moins remarqué une chose, Claude, c'est que je suis allé voir le QC125 il y a pas longtemps qu'on donnait la CAQ décédée totalement zéro. Non,
quatre sièges,
là, on parle de quatre sièges. Puis il y a encore du temps à faire.
Et demain, il y aura un sondage Léger complet. Là, on pourra avoir un autre portrait. La semaine dernière, on a eu le portrait de Palace Data. Et là, on aura un autre portrait, celui de Léger, là, demain. Là.
Et là, tu regardes, mis à part Saint-Pierre Plamondon et Christine Fréchette, les autres chefs, t'en faisais allusion, là, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, continue à avoir une certaine descente. C'est surtout hein, quand on regarde par rapport à l'électorat francophone. L'électorat anglophone, là, ça se poursuit de son côté, mais il y a 15% des Québécois qui jugent qu'il ferait, dis-je bien, un bon chef d'État. On regarde Éric Duhaime. Il est à 8, il était à 11.
Oui, mais Éric Duhaime, c'est une histoire de haine, je te dirais, entre les Québécois et Duhaime. Par contre, ça dépend dans quelle région tu vas te promener.
Oui.
Dans la région de Québec, c'est pas la même chose. Très populaire. En Beauce, très populaire aussi. Mais ailleurs, au Québec, il est détesté, Éric Duhaime.
Oui.
Et t'as maintenant Ruba Gazal qui ferme la marche avec 5% de popularité, là, qu'elle ferait la meilleure chef de gouvernement, là, selon seulement 5% de la population. Et encore une fois, ça, c'est très, très localisé dans la région de Montréal, sur le plateau Mont-Royal, par exemple. Bon, ça se limite à peu près à ça. Alors, Ruba Gazal se retrouve à peu près dans la même situation qu'Éric Duhaime.
Si j'avais un conseil à lui donner, Mme Gazal, c'est change de parti.
Oui.
Parce que c'est une excellente politicienne.
Oui, elle est excellente,
Mme
Gazal.
Elle est articulée au maximum.
Oui.
Elle est respectueuse.
De bonnes opinions,
aux périodes de questions. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est pas rien, là. Mais c'est un peu ça qui se dessine pour l'instant. Mais il faut quand même penser, là. On est à quelques mois du scrutin comme tel, du 5 octobre.
Ah, puis il va se passer beaucoup de choses cet été.
Ça va se corser, puis ça va se jouer, évidemment, entre, moi, je le vois comme ça, là, Saint-Pierre Plamondon, Milliard et Fréchette.
Mais moi, je vois beaucoup de luttes régionales.
Oui, mais ça, c'est un peu, tu sais, quand tu vas voir, là, évidemment, j'ai été attiré à aller voir un peu ce qu'on projette à Q625 pour la Naudière. On est en train de retourner de l'autre côté, comme on a toujours été, c'est-à-dire au Parti québécois, là. C'est ce qui s'annonce, en tout cas, du moins.
Mais des régions où on aura des luttes à trois. On en voit là de plus en plus dessiner là entre le Parti québécois, le Parti libéral, des fois le Parti conservateur, des fois la CAQ.
Ben, un exemple là-dessus, si on regarde du côté de Chaudière-Appalaches, notamment la Beauce, ça va se jouer entre d'abord et avant tout le Parti conservateur du Québec
et le Parti libéral.
Le Parti libéral, je sais pas, je serais plus porté à dire le PQ. Qui vont se suivre serrés.
Ouais.
Les libéraux, je ne sais pas, là, au niveau de la Beauce, ce que ça peut donner.
Y a
Région de Québec, ça va jouer. Conservateur, Parti libéral et aussi
Parti
la
québécois.
CAQ.
La CAQ aussi.
Exactement.
La CAQ n'est pas morte.
Non.
Clairement. Mais attendez-vous pas à revoir Christine Fréchette réélue comme première ministre. Remarquez qu'il y a bien de l'eau qui peut couler sous les ponts d'ici là.
Ben,
mais
vous allez sûrement le voir un peu plus tard aujourd'hui, là, entrevue qu'elle accordait à son retour d'Europe, notamment la Société d'État. Et moi, j'ai lu un peu le libellé là, de ses déclarations. Et elle disait, c'est encore possible, là, incontente de voir que ça bouge l'aiguille. Là,
c'est certain qu'elle fait une bonne job depuis qu'elle est là, mais il y a tellement de forêt à abattre, elle n'a pas fini. Là.
C'est la lune de miel en ce qui me concerne. C'est la lune de miel qui est encore là, c'est tout récent. Et on a le plus bel exemple de ce qui se passe. Là. On a pris la formule Couillard. Rappelez-vous de ce qui était arrivé à l'époque de Couillard. Cet après-midi, tu avais le ministre Drainville qui était à Saint-Michel-des-Saints qui amenait un beau chèque. Fait qu'on va voir ça de plus en plus aussi.
Merci beaucoup, Jacques.
C'est à suivre.
Oui, tout à fait.
Lanaudière PM, environnement.
Il y a la ville de Terrebonne qui prend les grands moyens pour sensibiliser sa population à l'importance de protéger la biodiversité. Et on organise samedi prochain, en fin de semaine, le BioBlitz 2026. C'est un rendez-vous qui, selon Karine Dancause, qui est chef de la section nature et résilience écologique à Terrebonne, sera une occasion là, de démocratiser, si on veut, l'information dans le domaine écologique. Régent Turgeon, l'a rencontré.
Madame Dancause, le mot blitz là, est souvent utilisé au football ou encore lorsqu'on veut faire une vente éclair. Mais le bio-blitz, ça veut dire quoi au juste?
Ben, c'est exactement ça. On va faire un blitz de la nature. Donc, l'objectif d'un bio-blitz, c'est d'inventorier le plus d'espèces vivantes possible en 24 heures. Fait qu'il y a deux types de bio-blitz. On peut en faire avec des experts, mais on peut aussi en faire un ouvert aux citoyens, où là, oui, il y a des experts, mais les citoyens peuvent venir avec nous faire les inventaires de plantes, d'insectes, de mammifères, de tortues, de reptiles, pour pouvoir voir toute la biodiversité là, qu'il y a dans ce cas-ci, à Terrebonne.
Là, ça réunit de grandes notions, on peut penser, d'éducation environnementale, vulgarisation scientifique, protection du vivant. Mais le plus important aussi, puis vous l'avez mentionné, la mobilisation citoyenne, on doit se sentir interpellé par la biodiversité.
Absolument. Terrebonne a une très grande biodiversité, mais on la voit pas toujours. Fait que le BioBlitz, c'est vraiment un bon événement pour venir se rendre compte de toute la biodiversité qu'il y a à Terrebonne dans le corridor de biodiversité, puis cette fois-ci au Parc de la Rivière.
Justement, parlez-moi donc de ce corridor de biodiversité. C'est une des grandes initiatives à Terrebonne là, dans le domaine.
Absolument. Le corridor de biodiversité, là, c'est plus de 500 hectares de milieux naturels qui sont protégés. Okay. Fait qu'on parle de grands boisés, on parle de milieux humides, on parle de cours d'eau aussi. Donc, la Ville s'est engagée à protéger, oui, ces milieux-là le plus possible pour pouvoir habiter une grande biodiversité.
Puis si je vais au Parc de la Rivière le 23 mai, il va se passer quoi? Là? Je vais voir qui et je vais faire quoi?
Donc, à partir de 9h le matin, il va y avoir plusieurs activités d'inventaire. On va avoir des inventaires de plantes, d'insectes, de reptiles, tortues, couleuvres. Mais il va aussi avoir des kiosques d'information. Fait que les gens vont avoir beaucoup de sensibilisation, un kiosque sur les abeilles. Il va y avoir une activité spéciale pour les chauves-souris en soirée aussi, donc où on va pouvoir entendre des chauves-souris. Donc, c'est vraiment là une journée familiale ouverte à tous, où on va pouvoir apprendre beaucoup de choses au niveau de l'environnement. Puis ça se passe au Parc de la Rivière, qui est le GEPAT, va ouvrir aussi le tir à l'arc, puis le disc golf aussi cette journée-là, pour ceux qui veulent essayer ces activités-là.
On parle beaucoup d'initiatives porteuses là, en protection de la biodiversité. Est-ce qu'il n'y a pas des exemples de ce que monsieur, madame, tout le monde peut faire pour justement pour les mettre en pratique là, ces initiatives-là?
Ben une des initiatives que moi j'aime beaucoup mettre de l'avant, c'est ben premièrement de profiter du corridor de biodiversité qui est à Terrebonne, en respectant le code de vie, évidemment. Donc rester sur les sentiers, pas cueillir rien, laisser la matière au sol et tout ça. Okay. Vraiment juste profiter de la nature. Fait que ça, c'est le premier geste. Plus on profite de la nature, plus on veut en prendre soin. Fait que si on en prend soin correctement, ben elle va demeurer. Sinon, il y a aussi plein d'autres initiatives là, qui peuvent être faites à la maison, là, comme laisser des zones avec des fleurs, laisser les pissenlits un petit peu plus longtemps pour les pollinisateurs, laisser des zones beaucoup avec des fleurs. Fait qu'il y a plusieurs initiatives qui peuvent être faites à la maison, puis les gens vont pouvoir en discuter de tout ça aussi là, au BioBlitz samedi prochain.
Dans le contexte actuel, là, madame, dans cause des changements climatiques, des grands projets de pipelines, des projets d'éoliennes, des grands chantiers, est-ce que l'enjeu de la biodiversité et se pose de façon plus cruciale que jamais?
Absolument. Quand on a une bonne biodiversité, c'est que souvent l'écosystème est sain. Puis si l'écosystème est sain, bien, il va fournir un paquet de services écologiques comme la lutte aux îlots de chaleur, l'accès à la nature, l'air frais, l'air pur. La biodiversité, c'est un maillon d'une grande chaîne. Puis si on en prend soin, bien, on va prendre soin de toute la planète en même temps.
Est-ce que d'autres municipalités lanaudoises pourraient se donner des corridors de biodiversité comme Terrebonne l'a fait?
Bien, absolument. Je pense qu'il y a plusieurs initiatives là dans Lanaudière et dans la périphérie aussi, là, où la connectivité écologique est de plus en plus importante. Fait que oui, ça se parle beaucoup. Il y a plusieurs initiatives dans Lanaudière, pas juste à Terrebonne.
Et ça se passe samedi, le 23 mai, dès 9h. Est-ce que ça va être gratuit?
Oui, absolument. Complètement gratuit.
Merci beaucoup, Mme Dancause.
Ça fait plaisir.
Régent Durgeon qui s'entretenait avec Karine Dancause, chef de section Nature et résilience écologique à la Ville de Terrebonne. Voilà, c'est le moment de saluer et remercier nos collaborateurs à l'émission aujourd'hui, François Morin, Marie-Pierre Poulain-Pierre, Jubinville, Jacques Plante, ainsi que Régent Durgeon. Ici Claude Fournel, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Nous, on sera là demain à 16h pour une autre édition de L'Anneau d'hier PM. Et entre-temps, manquez pas Nicolas Bellemare qui s'installe de l'autre côté de l'actualité de 17h pour vous présenter le 5 à 7 trad de CFNJ. Salut, bye-bye, à demain!